Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus pour assister à une nouvelle séance du festival Allez Savoir. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous sommes ravis du partenariat aussi avec la bibliothèque de l'Alcazar pour cette nouvelle séance du festival Allez Savoir consacrée à un thème lié à la nature, tous terrestres, les sciences humaines sur la piste animale. Et je vous donne tout de suite la parole et nous vous prions de nous excuser pour le petit retard lié à un problème de régie technique. Mais je pense que tout est réglé, c'est bon, on peut y aller.
Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour partir avec nous sur la piste animale. Alors suivre la piste animale dans et avec les sciences sociales. Merci Anne de nous avoir tous réunis autour de ce sujet. Alors on va essayer d'adopter deux perspectives, deux attitudes de pistage peut-être. Une en se penchant très près sur les textes littéraires, sur les images anciennes, principalement du Moyen-Âge avec Pierre-Olivier Dittmar sur les caractères chinois pour montrer à quel point en fait les formes culturelles nos formes culturelles sont tissées de présence animale et qu'on retrouve en fait des traces et des signes et des présences dans toutes nos histoires et dans tout notre imaginaire. Et puis, on va aussi regarder cette question d'un peu plus loin et discuter à partir des recherches et des pratiques de chacun, de la façon dont les sciences sociales, en fait, sont traversées par cette question de l'animal et qu'est-ce qu'elles peuvent en dire, peut-être par rapport aux sciences du vivant ou aux sciences dites de la nature qui, historiquement, sont celles qui produisent des savoirs et nous disent qui sont les animaux. Alors je vais présenter donc chacun et chacune. Alors à ma droite, Pierre-Olivier Dittmar, qui est historien, spécialiste du médiéval, de la période médiévale, maître de conférence à l'EHESS, et qui travaille sur les relations entre les humains et les non-humains au Moyen-Âge. Donc, dans non-humains, il faut entendre les animaux, mais aussi les invisibles, les artefacts. Anne Simon, qui est directrice de recherche au CNRS, juste à ma droite, spécialiste de l'animal en littérature contemporaine, et qui a créé le programme Animaux, qui s'écrit M-O-T-S, au CRAL, donc Centre de recherche sur les arts et le langage à l'EHESS. Et à ma gauche, Yolaine Escande, qui est directrice de recherche au CNRS et qui est, elle, spécialiste des arts graphiques chinois, pardon, de la peinture et de la calligraphie, et qui travaille sur le paysage, le rapport à la nature et au sacré.
D'accord. Oui, bonjour. Donc, je prends le relais quelques petites minutes pour vous présenter Anne de Malray, qui va être à la fois notre modératrice, mais aussi une intervenante. Alors, après des études de philosophie et de journalisme, Anne de Malray a pris la direction de la revue Billebaude. Elle vous expliquera ce que ça veut dire, ou on va le dire pendant la table ronde. Une très belle revue dont le dernier numéro s'appelle Fauve, voilà, qui fait partie du musée de la chasse et de la nature à Paris et qui est gérée par la Fondation François Sommer. Alors, à travers l'approche pluridisciplinaire de la revue et des nombreuses conférences qu'elle organise au musée, Anne anime une réflexion à la fois théorique et sensible sur nos relations avec le vivant, ce qui est un peu notre cas, ce qui nous réunit tous les quatre. Alors, très brièvement, donc merci de participer à l'aventure Tous terrestres, les sciences humaines sur la piste animale, humaine, animale, vous voyez, un petit jeu. Alors, comme le disait, voilà, il y a d'abord une petite chose qu'on vous a bâti, c'est que Baptiste Morisot, malheureusement, ne peut pas être avec nous, donc on va beaucoup regretter son absence, hein, pour des raisons familiales, mais sa recherche, évidemment, va être en piste avec nous, puisqu'on travaille avec lui depuis longtemps. Et le titre de cette table ronde s'est imposé d'emblée. Elle indique que certes, les éléments chimiques et les atomes dont nous sommes constitués sont sans doute faits de poussière d'étoiles et de résidus d'explosions de naines rouges. Je résume et je brode un peu, hein. N'empêche, vous savez, bon, c'est la thèse qui a été vulgarisé notamment par Hubert Reeves, qu'on est fait de poussière d'étoiles, hein, c'est très beau. N'empêche que humains et bêtes et même plantes, hein, nous arpentons ou nous survolons désormais la même terre, nous vivons et nous évoluons de façon entrelacée, y compris avec les plantes, sur lesquelles on aura une belle discussion demain. Bref, nous sommes des terrestres et nous allons voir que les sciences sociales et la réflexion sur les langages humains nous emmènent sur une piste animale qui a beaucoup à nous apprendre. Alors ce n'est peut-être pas étonnant et on va essayer d'analyser pourquoi. Ce sont sans doute les animaux qui nous ont appris à lire et à parler.
Alors comme je vous disais, on va faire ce jeu de focale pendant toute la conférence. Et on vous propose, pour commencer, de contempler voilà, le tracé d'un caractère chinois qui fait écho à ce texte de Michaud que nous allons commenter ensuite.
L'éléphant. Voilà, on va y arriver. Donc je disais au début, on reconnaît effectivement l'éléphant, et puis après, à la suite, voyez le texte de Michaud. Je ne sais pas si on va vous le lire. Ah, d'accord. Sinon, je peux le tenir. Non, mais ça, franchement, je préfère le tenir parce que là, ça me gêne. Voilà.
Et donc l'écriture a évolué, et au fur et à mesure que l'écriture évolue, c'est un caractère qui est un pictogramme, hein, c'est-à-dire qu'il représente ce que normalement nous voyons, mais au fur et à mesure qu'il évolue, on s'éloigne évidemment de l'aspect, disons déjà, complexe de l'éléphant qui est schématisé dans les formes les plus anciennes, et puis vous allez voir que la remarque de Michaud qui dit à la fin on n'y voit plus, strictement plus rien, elle est assez juste. Par exemple, voilà, ça c'est une graphie qui date de tout début de notre ère, à peu près 2000 avant, au début de notre ère, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Hein. Et cette graphie, elle est encore utilisée aujourd'hui dans l'écriture chinoise pour les sceaux notamment. Alors je suis désolée, je ne peux pas vous regarder en parlant. Parce qu'il faut quand même que je regarde ce que j'écris. Et donc cette graphie-là, elle est encore tout à fait usitée. Elle est connue par les gens qui écrivent, qui tracent, qui gravent des sceaux. Et les sceaux sont utilisés dans la vie de tous les jours, puisqu'en Chine, la signature ne compte pas. Ce qui compte, c'est le sceau. Donc quand vous faites un chèque, il faut. Enfin, maintenant, on ne fait plus de chèque. Hein, mais quand on faisait un chèque, quand j'étais étudiante, par exemple, eh bien, il fallait avoir un sceau, on ne pouvait pas obtenir un document administratif sans le sceau. Donc c'est quelque chose d'extrêmement courant.
Peut-être pendant que vous continuez à dessiner, on pourrait...
Donc là, effectivement, pardon,
je coupe. Non, allez-y.
On voit dans cette graphie qui date donc du début de notre ère, encore la trompe ici. Et puis ensuite, je vais faire l'écriture telle qu'elle est aujourd'hui, qui est effectivement très différente. Il fait sec à Marseille, donc
il n'y a pas assez.
Voilà, c'est ça. Bon, je pose parce que j'ai besoin de tenir le papier.
Donc là, c'est la forme actuelle, c'est ça qui... D'accord.
Il ne reste que ce petit bout là.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer justement cet éloignement progressif
L'utilisation graphique.
D'accord, c'est plus simple à dessiner en fait, c'est ça?
Ça devient c'est l'habitude de tracer. Par exemple, au début, on fait des ronds. Les ronds, ça prend beaucoup plus de temps que de faire des quelque chose plus carré. Et puis ensuite, le lancer du pinceau, ça permet d'écrire beaucoup plus vite. Mmh. Et après, on peut passer même à l'écriture cursive, qui est encore plus rapide, bien sûr. Et donc là, effectivement, l'éléphant, il n'en reste qu'une image. Et d'ailleurs, ce caractère éléphant sert à dire image, quelque chose qu'on imagine, puisque l'éléphant, tous les Chinois... De l'époque, n'ont pas vu des éléphants, donc c'est un animal qu'il faut imaginer. Donc c'est un caractère qui sert à désigner l'éléphant, mais aussi à désigner l'image et l'imagination.
Pour dire image ou imaginer quelque chose, on utilise le mot, ce caractère éléphant.
C'est ça, d'accord. Ce caractère en composition avec d'autres. Mais c'est la base, oui.
Ça rejoint ce qu'on disait en introduction sur la manière dont les présences animales traversent en fait notre imaginaire et l'habitent encore, même sous des formes presque effacées ou disparues. Alors, Anne Simon, c'est justement au cœur de vos recherches de pister l'animal dans les romans, dans la littérature. Et il y a toujours ce jeu de présence et d'absence en fait de l'animal, parce que le langage essaie d'en dire quelque chose, et en même temps, à partir du moment où on décrit, déjà on s'éloigne un peu de l'observation directe peut-être et de ce qu'est l'animal.
Merci beaucoup. Effectivement, alors, ce qui est très intéressant pour moi dans ce café devant nous, Yolène Escande, donc elle est partie d'un pictogramme, d'une image du monde, une image de l'éléphant en l'occurrence, d'un animal, pour nous montrer comment cet éléphant a habité finalement la langue chinoise, l'écriture chinoise, qui est quand même une des plus complexes au monde, et puis comment cet éléphant, il revient à travers la fable, d'accord, pour nous dire un mot incroyable, pour expliquer un mot incroyable qui est celui d'image. Alors en plus, qui n'a sans doute pas le même sens en Chine et chez nous, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse finalement, c'est comment les animaux, mais pas seulement, on pourrait parler aussi évidemment des végétaux, etc., comment les formes naturelles, et notamment les cris et les chants les cris des animaux, les chants des oiseaux, mais aussi la furtivité et les volutes d'un serpent, la rapidité d'un animal qui fuit, comment, par leur forme, qui ne sont pas toujours d'ailleurs des formes extrêmement visibles, ça peut être des capacités à s'esquiver, à disparaître, à être très furtif, vous voyez, ça peut être des formes d'intensité aussi, eh bien, les humains, à partir de la préhistoire, ont commencé à être sensibles à tout cela, et ça a énormément influencé les inventions des langages, des langues et des écritures. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire que finalement, notre alphabet lui-même, on l'a vu un petit peu dans la randonnée hier, notre alphabet est en fait habité d'animaux. Alors, on s'en doutait peut-être un tout petit peu, par exemple, pour des écritures idéographiques comme le chinois. Mais voilà, il faut savoir que notre alphabet à nous, que nous utilisons en permanence, vient d'un alphabète ou d'alphabètes au pluriel très anciens, qui sont des alphabètes phéniciens, proto-hébraïques, etc. Eux-mêmes qui venaient d'images. Et donc notre A, vous savez, comme ça, eh ben, c'est une tête de taureau renversée. Notre G a donné le guimel, le gamal en anglais, le camel chez les Américains fumeurs. Et puis le noun, par exemple, c'était un poisson ou le serpent d'eau, vous voyez. Et donc, on pourrait aussi montrer que cet alphabet, c'est une sorte de grande maison, puisque le B, le bet, c'est une forme comme ça, vous voyez, hop, avec une ouverture. Et le bet, en hébreu, en arabe, dans plein de langues sémitiques, ça veut dire la maison. Et donc c'est très intéressant de se dire que voilà, au départ, il y a une tête de taureau, ensuite il y a une maison ouverte, ensuite il y a un chameau, qui passe. Ensuite, d'alette, il y a une porte, etc. Donc, notre alphabet, il est en prise sur le monde et il est en prise sur notre corps, puisqu'il y a plein de lettres de l'alphabet qu'on utilise tous les jours sur le clavier de notre ordinateur. Ça veut dire l'œil, aïn, d'accord, le yud qui veut dire la main, le kaf, qui nous a donné notre cas, qui veut dire la paume de la main, etc. Et puis, il y a des crochets, il y a des hameçons, il y a des armes. Voilà, donc déjà, avoir l'idée que l'écriture, elle naît d'un rapport extrêmement sensible au monde. Cette écriture, en plus, qui nous vient donc de notre fréquentation des êtres animaux, comme le M, et le, d'accord, hein, le même, Maïm, l'eau. Donc on a des vagues encore aujourd'hui. Chaque fois que vous écrivez un M, et ben vous faites des vagues. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on les a écrits sur quoi ? Pensez aux Mésopotamiens, à l'épopée de Gilgamesh, etc. Les premières épopées qu'on a, elles étaient écrites sur des tablettes d'argile. Alors l'argile mésopotamienne, c'est vraiment penser aux dieux potiers, etc. Nous sommes constitués effectivement de poussière d'étoiles, mais ces étoiles, elles nous ont donné une boue primordiale qu'on retrouve par exemple dans le mot Adam, Adama, la terre, Adam, la terre. Hein. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et Yolène, je pense, aurait aussi beaucoup de choses à dire, ainsi que Pierre-Olivier. Je vais leur laisser la parole sur le fait qu'évidemment, on a des enluminures qui sont faites sur des peaux de veau, avec des pigments qui sont faits à partir d'éléments naturels, hein, notamment. Voilà. Et donc est-ce qu'on perd quelque chose aujourd'hui ? Je ne sais pas. Peut-être qu'avec le clavier, il y a encore beaucoup de choses à dire aussi. Excusez-moi, juste l'écran. Hein. Pour moi, c'est un cyclope. Hein. Quand on travaille toujours devant un énorme œil qui nous regarde. Et cet œil, évidemment, c'est un exosquelette. Hein. C'est une forme projetée de nous-mêmes. Ce qui explique d'ailleurs qu'on puisse être aussi concentré et fasciné par nous-mêmes en regardant un écran qui, soi-disant, nous ouvre sur le monde.
Pierre-Olivier, il y a une image qui est très parlante pour la période qui vous intéresse dans vos recherches sur la manière dont sur l'acte de nommer les animaux et de les classer aussi, d'ordonner le monde en nommant les animaux, parce que effectivement on a parlé de cet entrelacement des présences animales, mais il y a aussi un geste de mise à distance et de bon ordonnancement du monde avec les humains d'un côté et le reste du vivant de l'autre, qui se manifeste à cette période notamment.
Oui, c'est vrai que si on se penche vraiment sur la dimension proprement occidentale ou chrétienne de ces questions-là, sur la façon dont le monde peut s'articuler avec nos mots, avec le langage, on se rend compte de la place vraiment centrale de cette histoire. Si on regarde vraiment le mythe des origines, disons, tel qu'il est présenté dans la Bible, dans la Genèse, si on regarde qu'est-ce qui se passe au paradis avant que tout, effectivement, parte un petit peu mal, en fait, il se passe une seule chose au paradis. Une fois que l'homme a été créé, que les animaux sont créés. Donc Dieu crée d'abord les animaux. Je vous montre là, ici, effectivement, ces enluminures du Moyen-Âge qui sont, comme l'a rappelé Anne, faites sur le dos de l'animal, littéralement, qui témoignent aussi d'un rapport de domination. Et qu'est-ce qui se passe donc au paradis ? C'est Dieu demande à Adam de nommer les animaux. Et c'est la seule chose qui s'y passe avant la chute et avant effectivement la tentation et compagnie. Et il dit un truc assez étonnant. Il dit, il demande de nommer les animaux pour voir ce que ça fait une fois que les animaux sont nommés. Et alors là, si on rentre vraiment dans le détail des mots, c'est assez intéressant parce que le terme qui est utilisé dans la Bible pour dire voilà, Adam va nommer les animaux, c'est pas nommer, mais c'est appeler. Et appeler, ça on le sait tous, ça a deux sens. C'est appeler quelque chose, le nommer, mais c'est aussi appeler à soi, comme on peut appeler, je ne sais pas, un ascenseur. Et de fait, c'est un acte de pouvoir. C'est-à-dire, si on appelle, les animaux répondent, et du coup, on a soi, disons, voilà, une forme d'autorité, comme le professeur, tous les matins, fait l'appel de sa classe. C'est la première façon pour assurer, disons, voilà, une autorité sur le monde. Et là, vous voyez dans cette image qu'il y a Adam, qui est ici, qui est en train d'appeler les animaux. Il les appelle à lui. Et donc, il fait les deux choses à la fois. Il leur donne un nom, donc il les classe. Vous voyez que l'image fait plein de petites cases. C'est classifié, etc. Se mettre dans une position qui est quasiment celle de Dieu. À ce moment-là, il devrait être tout nu au paradis, mais vous voyez qu'il est représenté habillé dans l'image. Et le livre, ce manuscrit, qui est un bestiaire, représente Dieu en face, au point que quand on ferme l'ouvrage, dans l'obscurité, Dieu peut regarder effectivement cette scène d'Adam qui nomme les animaux. Alors, pourquoi c'est important, disons, cette façon de nommer le monde? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut dire, c'est quelque chose de chrétien, de religieux, etc., qui a eu un rôle pendant tout l'Occident, mais c'est un rôle qui traverse après l'histoire occidentale jusqu'au naturalisme, jusqu'effectivement à la culture scientifique, où si on prend Linné, qui est à la base de la classification moderne du monde animal, eh ben, Linné, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à vouloir renommer les animaux. Et on peut dire que toute une part de la science contemporaine s'est définie de cette façon-là, de dire retrouver la puissance d'Adam qui pouvait nommer tous les animaux et qui pouvait assurer, disons, voilà, avoir un rapport de contrôle total sur l'ensemble de la création. Tout le monde obéissait à Adam, même les animaux sauvages, même les animaux qui après se sont révoltés contre les humains. Il y a ce premier moment qui constitue une espèce de rêve occidental de domination sur l'ensemble du monde animal, mais qui, heureusement, enfin, a été largement remis en cause par la suite.
Justement, peut-être ça évoque ce texte très connu de Derrida, dans lequel il dit que les humains parquent un grand nombre de vivants sous un seul concept, qui est l'animal, avec un A majuscule. En fait, on peut dire que c'est effectivement le produit d'une longue histoire qui démarre avec ce geste d'Adam et qui se poursuit avec les sciences, en fait, l'émergence des sciences modernes. Si on revient à ce que les sciences humaines en fait peuvent peut-être dire autrement sur l'animal, et notamment en littérature, en fait, Anne-Simon, vous travaillez beaucoup sur la façon dont les textes littéraires, les fictions, l'imaginaire restituent des voix singulières, des existences singulières aux animaux, qui peut-être viennent mettre à mal ces catégories ou les bousculer justement.
Merci beaucoup. Oui, donc on parlera tout à l'heure aussi de littérature asiatique. Alors, avant de revenir un petit peu sur effectivement cette fonction majeure de la littérature qui est d'incarner des existants, d'incarner les bêtes dans des existences singulières, particulières, à travers des récits qui vont leur donner des biographies, en quelque sorte, je vais y revenir. Je pense que ce qu'il est important, et je crois que tu l'as vraiment bien dit, il y a un courant majoritaire occidental, chrétien, mais aussi d'autres traditions qui vont aller vers ce courant majoritaire, qui sera celui d'une classification domination. Toutes les cultures classent, et toute classification n'est pas domination. On est obligé de départir le monde, en quelque sorte, et d'établir des lignes pour pouvoir le comprendre. Et je crois que Yolaine aussi pourra en parler. Il est évident que cette classification dont tu parles a été extrêmement violente pour les animaux, mais si on revient à une tradition talmudique, à une tradition hébraïque, je crois que c'est très intéressant ce que tu as dit, puisque le verbe qui est employé dans Bereshit, dans la Genèse, c'est le verbe likro, vaikra à Adam Shemot. Shemot, Shem, Hashem, c'est-à-dire les noms, vous voyez, c'est un mot fondamental. Alors on peut le voir comme vaikra, likro, qu'est-ce que ça veut dire? Ça a beaucoup de sens, c'est une racine qui nous fait un étoilement vers une constellation de sens, nommer, appeler. Je vous signale que quand on a un enfant qui vient au monde, on le nomme. Alors est-ce qu'on fait un acte de domination sur cet enfant, ou est-ce qu'on vient au contraire l'intégrer dans la communauté des vivants et des vivants humains? Voilà, il y a même des traditions où on a un deuxième nom à un autre moment dans beaucoup de cultures. Donc nommer n'est pas forcément dominer. Le verbe likro, donc nommer, appeler, lire, crier. D'ailleurs, Shouraki traduit par crier les noms. Et donc, on peut aussi se dire d'une certaine façon que ce que fait Adam, c'est à la demande de Dieu, mais ce que fait Adam, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de vivre seul, de vivre entre humains, et surtout entre humains tout seul, même s'il est mâle et femelle. Et donc, il faut des autres. Et ces autres, on doit les intégrer dans ce qui fait une des particularités de notre espèce, qui est la langue. Et donc, ce n'est pas forcément une domination que de nommer, c'est aussi une adresse et c'est une intégration de la profusion des vivants dès le début de la Genèse, dès le début de Bereshit que fait Adam. Il intègre la profusion des vivants et il s'y intègre lui-même à égalité. Dans le langage. Et donc ça, ça me semble extrêmement important puisque ces vivants, ce sont des animés, ils sont doués d'une nefesh, d'un principe de vie. Voilà. Alors, sur la littérature, parce que ce qui est donc très intéressant, c'est que selon aussi les genres littéraires, vous allez ne pas avoir les mêmes façons de donner vie et de donner existence à l'intérieur de notre langage aux animaux. L'essentiel, vous voyez, le poème par exemple va peut-être faire surgir des élans, des intensités, des arrêts, des mouvements de façon moins narrative, on va moins raconter la vie d'un animal parfois dans certains poèmes. Il n'y a pas de systématicité en littérature. Et puis, vous avez beaucoup de romans qui vont nous raconter l'existence d'un animal, soit qu'on soit plus ou moins dans sa tête, dans sa peau, dans sa sensorialité, parce que, par exemple, le pronom « je » va être employé, et que l'écrivain va essayer de se mettre à la place de l'animal, ce qui est quelque chose de très compliqué, et peut-être que ce n'est pas comme ça qu'on doit discuter, d'ailleurs. Ou alors, on peut aussi se mettre en position complètement externe, en focalisation externe, d'accord, et décrire les mouvements d'un animal en respectant son altérité. Et c'est aussi une très bonne manière d'accéder à l'autre que de décrire tout simplement ce qu'il fait sans toujours pouvoir le comprendre.
Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez dessiné. Alors, on peut lire « chien », mais voilà.
Donc j'ai repris tout à la même... le même principe, c'est-à-dire l'écriture, les formes d'écriture les plus anciennes jusqu'à l'écriture la plus récente. Mais ce n'était pas seulement pour ça, c'était pour vous montrer que cet élément du chien est un pictogramme à l'origine et par la suite, il sert à classer, à classifier, pour reprendre ce dont ont parlé Pierre-Olivier Dittmar et Anne Simon, à classifier de façon différente de ce que nous faisons en Europe ou en Occident. Les classifications, par exemple, avec l'élément du chien, donc il y a des caractères qui sont composés d'un élément radical qui sera sémantique, qui va donner le sens, qui va nous donner une rubrique de sens à un caractère. Et puis vous aurez un élément phonétique, comme dans les hiéroglyphes, qui va indiquer le son, en principe, du caractère. Donc c'est ce qu'on appelle les pictophonogrammes, il y a aussi des idéophonogrammes. Et dans le cas de la rubrique du chien, qui est un animal donc qu'on rencontre, qui est un animal familier aussi bien en Chine que chez nous, hein, et qui sert à la chasse, qui sert à garder, etc., cet élément du chien, on le retrouve pour classifier quantité de choses différentes, des noms, mais également des verbes. Donc par exemple, pour classifier des animaux, d'autres animaux, comme le chien, un autre chien, celui-là de chien, il veut dire c'est le grand chien de chasse, et puis le chien courant qu'on a à la maison, ça sera un autre mot, ça c'est tuen, et un autre caractère en composition, je vais vous le faire tout à l'heure, sera le chien domestique, c'est dit go. Et puis ensuite, vous avez le renard, le léopard, le lion, puisque le lion est également un chien, pour les Chinois, est considéré comme un chien, et c'est pour ça que vous avez souvent des lions à l'entrée des temples, surtout les temples bouddhistes. Mais il ne sert pas seulement à classifier des noms d'animaux, des singes par exemple, il sert aussi pour des verbes, comme par exemple être violent. Alors on se dit, ah oui, un chien ça peut mordre, on comprend. Ça peut servir également pour d'autres mots, comme attaquer, là aussi on peut comprendre, mais ça peut être aussi pour deviner, tsai, c'est l'élément, la rubrique de sens, c'est le chien. Ou bien faire une offrande, ça sera aussi avec le chien. Donc aussi bien, on aura une catégorie qui sera aussi bien positive que négative, hein, moralement négative, c'est-à-dire attaquer ou être violent. Dans la société, ça peut être gênant, c'est en général mal vu, mais faire une offrande, c'est plutôt positif. Donc cet élément du chien se retrouvent dans des catégories qui paraissent complètement opposées, différentes, et qui pourtant suivent une logique que nous ne saisissons pas forcément quand on les rencontre à la première fois, quand on apprend le caractère, quand on se demande où est la logique. eh bien, il faut justement, il faut la chercher dans les façons différentes de classifier les choses, hein, puisque un caractère peut être aussi bien un nom qu'un verbe, etc.
Aussi peut-être on... Oui. Ah, pardon. Non, je disais qu'à travers l'histoire de ces caractères, en fait, on voit émerger l'histoire de relations, en fait, et de conception de l'animal et de manière de le regarder. Et justement, Pierre-Olivier, dans votre travail, en fait, les animaux sont présents partout. Enfin, il y a un bestiaire énorme, en fait, au Moyen-Âge. Et comment est-ce que... les relations qu'on peut observer et qu'on peut raconter à partir de ce bestiaire ancien nous éclairent en fait sur peut-être où est-ce que nous en sommes aujourd'hui de nos relations au vivant.
Oui, c'est vrai que ce qui est frappant si on se place dans une perspective qui est, je ne sais pas, celle d'Escola qui est juste au-dessus de nous, qui est en train de parler à ce moment-là, c'est de prendre avec tout le sérieux nécessaire ce monde où l'homme et l'animal, ou même la nature et la culture ne sont pas séparés, mais fonctionnent dans un système de relations permanentes, ce qui d'ailleurs passe constamment par le langage, ce qui fait que Michel Foucault a parlé de la prose du monde, de se dire le monde est comme un livre à lire, ou si une pie traverse la route, suivant si la traverse de gauche à droite ou de droite à gauche, c'est quelque chose qui est signifiant pas seulement pour la pie, mais aussi signifiant pour la personne qui voit ça. Et donc le monde dans son ensemble nous dit des choses. Et ce qui est important, c'est que ces relations sont réciproques, c'est-à-dire que les actions que l'on a sur nous-mêmes, par exemple, si on n'arrive pas à dominer ses propres passions au Moyen-Âge, où les passions elles-mêmes sont vécues comme tout un monde animal qu'on aurait en soi, c'est-à-dire qu'on a en soi un lion colérique, un taureau belliqueux, je ne sais pas, un chat désirant. Enfin, et si on n'arrive pas à dominer ces animaux qui sont dans nous, eh bien, ça veut dire qu'on n'arrivera pas non plus à tenir bien ces bêtes dans les champs quand on les retrouve en journée. Donc les liens entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe dans le monde sont permanents. Et alors, ce qui me frappe, surtout en entendant le début de la discussion, c'est cette façon de l'intrication du langage, et y compris presque dans sa matérialité des lettres et des animaux, où si on regarde... excusez-moi. Vous voyez, c'est peut-être un peu difficile pour ceux qui sont les plus loin, mais vous voyez ici que les lettres sont faites d'animaux. C'est le début d'un ouvrage qui est un hexaméron qui décrit les six jours de la création. Donc là, c'est essentiellement des oiseaux et des poissons. Et de fait, les animaux sont partout autour de la culture du texte et des livres. Ils entourent les pages à la période gothique et ils vont jusqu'à entrer dans les lettres. Et je voulais partager avec vous ce magnifique alphabet du XIVe siècle. Qui contient tout un monde animal et qui en fait nous invite à penser que effectivement c'est pas seulement le monde qui fonctionne comme un livre, mais c'est que les livres aussi, les lettres elles-mêmes contiennent des mondes et donc les choses fonctionnent de façon complètement symétrique, c'est-à-dire qu'on peut lire les animaux comme porteurs de messages, mais les mots eux-mêmes contiennent des animaux, les lettres elles-mêmes contiennent des animaux. Et ça, ce n'est pas une spéculation de chercheurs postmodernes du XXIe siècle qui aimeraient voir ce genre de choses. Mais par exemple, le très vénérable Saint-Augustin lui-même dit ça très, très explicitement, où lui, il s'insurge sur des interprétations symboliques des animaux, où il dit, si on prend les animaux comme des mots, si on dit, qu'est-ce que représente le lion ? Il dit, est-ce que le lion représente la force, ou alors représente les forces du mal qui vont attaquer les pêcheurs, ça marche pas, parce que le même animal peut représenter des choses hyper positives et des choses hyper négatives. Et c'est exactement ce qu'on trouve, je sais pas, dans les dictionnaires de symboles qu'on achète dans les gares, etc. Enfin, c'est toujours plein de symboles contradictoires. Et donc Augustin nous dit, il faut pas prendre le monde et les animaux comme des mots. C'est une erreur énorme, parce que les animaux ne veulent rien dire, ils nous disent rien en eux-mêmes, parce que les animaux ne fonctionnent pas comme des mots, les animaux fonctionnent comme des lettres. Et c'est là que ça rejoint évidemment les questions qu'on regarde actuellement. C'est-à-dire, le lion lui-même ne dit rien dans sa nature de lion, Mais par contre, la façon dont le lion va composer avec la lionne, avec la gazelle, avec la mare dans laquelle il va s'abreuver, ça, c'est signifiant, parce que tout ça, c'est des lettres, et ça fonctionne, ça fait des mots. Donc là, évidemment, une fois qu'on a tout ça en tête, on rentre dans un processus où la vie devient une immense expérience littéraire, où on est constamment en train de déchiffrer, de recomposer ces phrases que le monde nous livre.
Oui, c'est tout à fait passionnant ce que tu racontes. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'on ait des poissons dans cet alphabet chrétien, et tous, hein, qui vient imprimer le nom du Christ sur la page à travers l'animal symbolique qui le représente, à cause du mot ictus. Et ce que tu dis, c'est vraiment passionnant, parce que on va retrouver dans toute la littérature jusqu'à aujourd'hui quelque chose qui est fondamental, qui est la question de la piste dont on a qui constitue le titre de notre table ronde, la traque. Alors ça peut être la chasse, évidemment, hein, la chasse de l'animal, la traque, la quête du Graal, évidemment. Alors vous allez me dire, c'est pas un animal, mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que la narration, elle se nourrit de l'idée de pister, de chercher et de la quête. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que peut-être que nous avons appris à lire grâce aux animaux. Peut-être que les animaux ont commencé au moment où on les a chassés, on avait besoin à l'époque de les chasser pour ne se nourrir. Eh bien, ils ont commencé à écrire des histoires sur le sol, à même la terre. On retrouve cette terre meuble dans laquelle ils déposent des empreintes, hein, ces empreintes qu'on retrouve aussi dans les calligraphies de Yolène. Et finalement, on a un philosophe qui s'appelle Carlo Ginzburg, qui dit, dans un article dans Le Débat de 1980, il dit quelque chose de très beau. Il imagine une fiction, il fait une fiction en disant « J'imagine un chasseur du néolithique qui est accroupi au bord d'un chemin. Il regarde des traces d'animaux et d'empreintes dans la boue et en train de regarder comme ça, il dit « Quelqu'un est passé par là ». Pas une bête, un animal, quelqu'un est passé par là. Une vie singulière, dotée d'un objectif, qui est celui de survivre, hein, et de nous échapper, d'échapper à lui, le chasseur, est passée par là. Et donc, on va retrouver cette idée dans énormément de livres, que ce soit Moby Dick de Melville, que ce soit La dernière harde de Genevoix, ou Rabolio aussi de Genevoix, où c'est cette fois un homme qui s'enfuit, d'accord, et devant les gendarmes. Chez Chamoiseau aussi, avec le vieil homme esclave et le molosse. Donc partout, on va retrouver des récits de fuite et de chasse qui vont enclencher la narration. C'est Moby Dick qui s'en va, qui va déclencher la fiction et qui va déclencher l'histoire et la naissance d'un récit chez les écrivains. Donc vous voyez, ce qui est fondamental et incroyable finalement, c'est que les écrivains savent depuis longtemps que les bêtes écrivent des histoires de survie à même le sol, et que nous, les humains, nous les lisons et nous apprenons à lire les empreintes des animaux pour pouvoir aussi les dévorer. Donc il y a quelque chose d'extrêmement primaire et en même temps de très construit et de très fabuleux dans cette relation originaire entre la langue et la survie.
Je voudrais rebondir sur cette question de la trace, puisque l'écriture chinoise, l'origine légendaire de l'écriture chinoise, c'est la lecture de traces d'animaux sur le sol et de constellations dans le ciel. Donc on a deux origines, le ciel et la terre, et sur la terre, donc ce sont des traces d'animaux qui auraient inspiré un être divin, un personnage qui savait donc lire à partir des traces, qui a servi à composer les premières formes d'écriture. Donc les animaux sont absolument essentiels. Et là, c'est vraiment l'origine de l'écriture. Alors, oui, c'est l'origine de l'écriture, l'origine imaginaire de l'écriture. L'origine historique est différente, bien entendu, puisque elle est liée à la divination. Donc ça nous entraînerait sur autre chose. Mais l'origine légendaire et profonde de l'écriture, c'est les traces d'animaux en partie sur le sol.
Pour continuer sur ce motif du pistage et de l'animal qu'on essaie en fait d'approcher, mais qui fuit toujours et qui se dérobe toujours, il y a une sorte d'insaisissabilité de l'animal, en fait, et d'impossibilité, finalement, de, à part dans l'acte de chasse, peut-être par justement la mise à mort, d'une rencontre qui est toujours fantasmée, souhaitée, mais qui n'est jamais complètement réalisée, parce que l'animal garde, en fait, sa part de mystère et d'altérité, qui est très étrange, parce que c'est à la fois un être familier, on peut s'identifier à plein d'égards à lui. On trouve des formes de ressemblance quand on observe je sais pas, une mère ours avec ses petits. Enfin, immédiatement, il y a une forme d'empathie et d'identification, et en même temps, une altérité radicale qui continue à nous échapper. Et est-ce que peut-être la littérature, du coup, est l'endroit qui essaie d'explorer cette zone, qui essaie de la raconter, peut-être, à défaut de pouvoir la caractériser, justement, ou la définir.
Merci beaucoup. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. La littérature va rendre compte de modalités très complexes et très diversifiées de nos rapports aux animaux. Je vais enclencher, évidemment, sur cette question de l'esquive chère à Jean-Christophe Bailly dans Le versant animal, de l'échappée, du pistage cher à Baptiste. Je crois aussi quand même qu'il y a plusieurs régimes d'écriture en littérature dans le rapport de l'écriture et de la narration à l'animal. Et il y a beaucoup de textes aussi qui nous parlent de complicité extrêmement forte, extrêmement intime entre les humains et les animaux. Je pense à une très belle phrase de Béatrix Beck, B-E-C-K, qui, dans L'enfant chat, qui est un très beau texte sur une petite chatte, à un moment, elle décrit la chatte qui est à côté d'elle sur l'oreiller, et Béatrix Beck écrit quelque chose du style, parce que je ne m'en souviens pas totalement de mémoire, « Me suis entendu respirer à côté de moi-même ». Donc, vous voyez, elle enlève le sujet, le « je », ça disparaît. « Me suis entendu respirer à côté de moi-même ». Et donc, il y a une sorte d'indistinction du souffle. Alors là, évidemment, le souffle en littérature, c'est quelque chose de fondamental, puisque le zoon grec, dans zoopoétique, dans zoologie, dans tout, voilà, nos zoos, etc., ce zoon veut dire tout ce qui est animé, tout ce qui est doué à la fois de mouvement, de motion, mais aussi d'une respiration, d'une certaine façon. Voilà, la littérature est capable de rendre compte de ces moments que nous vivons tous avec nos animaux familiers, familiaux, que Deleuze disait détester, mais qu'en fait, on voit bien dans l'abécédaire, quand il décrit la mort de son petit chat dans un coin, on voit bien à quel point lui aussi était en quelque sorte happé par cette familiarité-là, qui n'est pas une familiarité d'ailleurs hasardeuse, puisque pourquoi est-ce que nous comprenons les animaux et pourquoi est-ce que la littérature peut nous donner à lire de grands moments de complicité et d'interpénétration entre les humains et les animaux, et tout simplement parce que nous ne sommes pas que des anthropoïdes, nous ne sommes pas que des humains, mais étant humains, nous sommes aussi des grands primates, voilà, nous sommes aussi des vertébrés. Baptiste Morisot ajouterait, nous sommes aussi biomorphes, nous sommes des êtres biotiques, nous sommes du vivant. Et donc, ce n'est pas totalement étonnant qu'on puisse comprendre les animaux et même les plantes. Je dis souvent que quand on voit, on dit « mon jardin est en train de crever ». Vous savez, quand on dit « ce jardin est en train de crever », et on sait très bien qu'il faut à ce moment-là l'arroser, ou on dit d'une plante qu'elle est en train de souffrir. Et donc, ces locutions qu'on a en français et qu'on a sans doute en chinois et dans toutes les langues viennent nous dire quelque chose d'un partage pathique, d'un partage émotionnel avec les bêtes qu'on retrouve au sein du langage et des locutions. Et en ce qui concerne l'échappée, évidemment, vous savez, il y avait, je ne sais plus comment il s'appelle, il y avait un chercheur américain au début des années 80 qui a écrit un article qui a fait date, genre le scoop. Il disait, c'était en neurosciences, on ne peut pas se mettre dans la tête d'une chauve-souris, on ne pourra jamais arriver à se mettre dans la tête d'une chauve-souris. Mais c'est pas ça que demande la littérature, c'est pas ça que nous les humains nous demandons. Moi je peux même pas me mettre dans la tête de Pierre-Olivier, mais si, même si évidemment c'est un de mes objectifs de vie. Et Proust dirait de toute façon que on ne comprend jamais les autres. Quand Albertine meurt dans À la recherche du temps perdu, le narrateur qui est complètement dingue, hein, c'est un geôlier absolu, il est fou de jalousie, même morte, c'est même pire quand elle est morte puisqu'elle lui échappe, hein, elle est comme un animal, c'est un être de fuite, et les animaux aussi sont des êtres de fuite, et il lance quelqu'un, un détective qui est aimé, hein, voilà, il le lance sur la piste d'Albertine, et il passe son temps à essayer de comprendre ce qu'elle a fait, ce qu'elle était, etc. Et donc même entre humains, on a du mal à se mettre à la place les uns des autres, et pourtant on sait très bien qu'il y a des moments où on partage aussi les choses. Donc, il me semble que la littérature, ce qu'elle cherche à faire avec Moby Dick et Aqab, qui est pendant des centaines et des centaines de pages, essaye de poursuivre le cachalot, ou on va dire la baleine blanche, avec Jean Rollin qui, dans Un chien mort après lui, part à la chasse. On est dans un livre, un roman des années 2000. Il part à la recherche des chiens féraux, des chiens domestiques redevenus à l'état sauvage du fait de guerre, de désastres humains, de radiation du style Tchernobyl, etc. Et Jean Rollin, en partant à la recherche des chiens féraux, va évidemment produire du récit, et ce récit va nous dessiner une cartographie du désastre mondial, en quelque sorte. Hein. Et donc l'objectif, ce n'est pas de se mettre à la place d'une chauve-souris, c'est d'aller vers, d'accord ? C'est de se mettre dans la roue, sur la piste de... Quand vous allez déjà à la rencontre d'eux, je dirais que vous avez déjà gagné en quelque sorte. Si vous partez avec l'idée que vous ne pouvez pas comprendre les animaux parce que vous êtes complètement hétérogène à l'animalité, c'est même pas la peine de commencer. D'accord. Et moi je dis souvent que ce pas de côté, ce que George Steiner, le philosophe, appelle dans Extraterritorialité un délogement, d'accord, eh bien on peut l'effectuer dans la langue. Et le grand paradoxe, c'est que notre langage, qui a l'air d'être le comble de l'humain, surtout le langage poétique, le langage figural, aucun animal n'est capable d'avoir un langage qui est comme ça, capable d'inventer de l'inexistant, de convoquer l'absence, de convoquer les esprits, les morts, les fantômes, les disparus. Pensez aux disparus de Mendelssohn, par exemple, de David Mendelssohn. Eh bien c'est par ce langage là et non pas malgré lui que nous pouvons avoir accès aux autres. Et pourquoi ? Parce que, justement, ce langage-là, c'est un langage qui est capable de maintenir l'altérité à sa juste place. Voilà. Donc, si vous fusionnez avec l'altérité, vous le transformez en vous-même et vous la ratez.
Oui, ça me fait penser à cette idée, en fait, d'intimité, enfin, qui est une idée de Baptiste Morisot, d'intimité dans la distance, en fait. Comment être à la juste place devant l'animal, c'est-à-dire ni trop proche de lui sous peine d'anthropomorphisme. Alors l'anthropomorphisme, c'est pas nécessairement problématique, mais ça l'est lorsque l'animal n'est plus qu'un support de représentation pour parler uniquement des humains, en fait, et de projection de soi sur l'animal. En même temps, arriver à s'approcher suffisamment pour redéployer peut-être cette sensibilité au vivant. Et ça, c'est toute une partie du travail de Baptiste Morisot, qui malheureusement n'est pas là, mais de nous resensibiliser, de redessiner des chemins pour se rendre à nouveau sensible. Alors pour lui, ça passe par du pistage au sens très pratique, c'est-à-dire une aller sur les traces des animaux, les observer dans leur milieu et essayer de raconter leur forme de vie de la manière la plus juste possible. Alors, Pierre-Olivier, justement, je voulais rebondir sur cette idée de projection sur ou d'animal comme support de représentation, parce que dans ce que tu nous as montré, effectivement, il y a beaucoup de figures animales, beaucoup de présences, mais pourquoi est-ce qu'elles sont là et qu'est-ce qu'elles disent, en fait, de l'animal, ou peut-être qu'est-ce qu'elles disent des relations, en fait, à cette époque des humains aux animaux.
Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours une tension dans cet usage de, symbolique ou métaphorique des animaux, si on se dit, ben voilà, on perd l'animal vrai, l'animal qu'on croise. Si on dit, ben, c'est que des métaphores, les animaux dans la bouche des hommes et des femmes du Moyen-Âge, on a l'impression qu'ils les croisent jamais vraiment. Et de fait, c'est compliqué. Par exemple, dans les textes du Moyen-Âge, on a plein de récits qui disent que les hérissons se promènent dans la forêt se roulent au pied, par exemple, dans les vergers, se roulent au pied des pommiers et ramènent des pommes sur leur dos, dans leur terrier, qu'ils ont mis qu'ils ont piqué sur leurs épines. Donc c'est une technique, voilà, de collecte d'hérissons. Et donc ça, on retrouve ça dans tous les textes du Moyen-Âge, ces petits hérissons qui se promènent avec les pommes sur le dos. Et je trouve que c'est une question qui est vraiment importante pour nous, parce que qu'il y ait des textes fabuleux ou fantastiques sur les licornes ou sur les éléphants, on se dit, bon, ben voilà, on n'en croisait pas tous les jours dans les rues de Marseille au XIIIe siècle, donc c'est normal. Mais par contre, le hérisson, c'est vraiment un des animaux qui est le plus courant dans l'environnement européen. Donc évidemment, les femmes et les hommes du Moyen-Âge croisaient des hérissons, et effectivement, comme nous, voilà, ils voyaient très bien que les hérissons, ben, mangeaient, je ne sais pas moi, des limaces, des escargots, mais ne se trimballaient pas avec des pommes sur le dos. Et donc là, il y a vraiment deux statuts différents d'animal. C'est-à-dire qu'il y a l'animal pour eux qui est l'animal visible, le hérisson qui croise, qui mange les limaces tous les jours, qui les intéresse, qui est pourvoyeur de signes, d'un imaginaire comme on l'a évoqué, mais qui est malgré tout qu'un monde d'apparence. Ça, pour eux, c'est juste l'apparence du hérisson tel qu'on peut le croiser, tel qu'eux, ils peuvent le revoir avec leurs yeux, mais ils ne font pas confiance à leurs propres yeux. C'est des yeux qui témoignent juste de l'apparence des choses. Et pour eux, il y a la vérité du hérisson qui est tout à fait autre chose que la réalité qu'on voit. Et la vérité du hérisson, c'est de se trimballer avec des pommes sur le dos. Même si c'est une vérité qui est en contradiction avec ce qu'on observe. Mais par contre, elle est rapportée par Pline, par toute une série d'auteurs, notamment par des textes. Et effectivement, c'est les textes qui sont premiers pour accéder au monde animal. Donc voilà, ils sont constamment avec ces deux mondes qui font exister cet imaginaire littéraire et puis effectivement ce qu'ils voient avec leurs yeux d'humain. Et tout le jeu consiste à traduire en permanence l'un dans l'autre, ce qui effectivement fait quelque chose d'assez, une mécanique qu'on a du mal à imaginer, mais qui fait que du coup toute une série de comportements animaux prennent un sens extrêmement stratégique pour eux. C'est pas quelque chose qui est secondaire pour nous, c'est une sous-branche, disons, ça intéresse qu'une petite partie de la population, même si elle est heureusement de plus en plus importante. Ou pour eux, les animaux tiennent un discours qui est central dans la politique, ou par exemple la production de fables, où aujourd'hui les récits avec des animaux, c'est quelque chose qui pour nous est absolument secondaire ou qui est surtout réservé au monde des enfants. Et alors qu'au Moyen-Âge, c'est les textes les plus virulents, les plus critiques, les plus subversifs du Moyen-Âge sont portés par des animaux. Si, par exemple, on prend le roman de Renard, qui est vraiment une fable qui, nous, on connaît par les versions qu'on a apprises à l'école, qui sont des versions ultra édulcorées. Mais si on pense à la version proprement médiévale à la base du roman de Renard, c'est un texte qui décrit Renard le loup, Isengrin. Renard, c'est lui-même une métaphore, il représente la ruse. Renaud, Isengrin, le loup, représente la force. Et ça démarre par une scène de viol qui est extrêmement violente et crue, telle qu'elle est décrite dans le texte. C'est Renard qui viole la femme du loup, donc c'est la ruse qui viole la femme de la force. Et donc là, ce viol, il est extrêmement brutal et cru dans la description. Et Renard est tellement une force du mal, d'une jouissance rusée négative, qui, de joie, après, il urine sur les enfants du loup et de la louve, de joie autour du lit, comme ça, il part heureux de son bon coup. Et ça, c'est le début de ce monument de la littérature médiévale qui est le roman de Renard. C'est-à-dire à quel point on est loin des petites versions qu'on apprend à l'école. Mais c'est la littérature la plus subversive, peut-être, une des plus subversives, disons, de son siècle. Donc là, on est vraiment loin, disons, d'un usage innocent de ces choses-là.
Hélène, tu veux peut-être intervenir là-dessus ? Moi, je rebondis après.
Sur la façon d'observer les animaux et de les intégrer dans la société, dans la vie sociale, évidemment, les Chinois font la même chose. Simplement, on le voit déjà rien qu'à travers l'écriture. Par exemple, le fait que, comme les caractères chinois qui constituent eux-mêmes une langue graphique à part de la langue orale, puisque l'oralité n'a pas du tout l'importance qu'elle a chez nous,
Mais en revanche, l'écriture, la langue graphique est tout à fait essentielle. Elle marque, elle sert à la relation aux divinités, elle sert, l'écriture est vraiment ce qui a remplacé le sacrifice rituel. Donc le sacrifice des animaux a été remplacé par l'écriture, et lorsqu'on écrit à une divinité, elle est obligée de répondre. Donc dans l'écriture, on voit la façon dont l'animal est composé, est construit dans l'esprit des Chinois, et en particulier, donc, par exemple, dans certains caractères. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du chien qui sert à faire des catégories, mais vous avez, par exemple, l'oiseau à queue courte, ce qui marque une observation assez fine, enfin oui, une très grande observation, parce qu'il y a l'oiseau, d'une part, qui est un pictogramme, et puis il y a le pictogramme de l'oiseau à queue courte qui est ici, voilà, c'est cet élément-là. Et ici, on a un élément phonétique, et ça donne les gallinacées, et toute quantité d'autres animaux. Mais on peut constater que cet oiseau à queue courte va ensuite donner un idéogramme qui est celui de l'envol ou du vol. Hein. Donc cet oiseau à queue courte, au-dessus du pictogramme de l'arbre, marque l'idée de s'envoler, puisque évidemment le propre de l'oiseau, c'est de pouvoir d'être capable de voler. Et donc ça donne, en graphie sigillaire d'il y a 2000 ans, ça donne ceci, et en écriture d'aujourd'hui, ça donne cela. Par exemple, l'insecte qu'on a ici sert à figurer le vent, c'est-à-dire que le vent est quelque chose qui ne se voit pas, mais qu'est-ce qui fait qu'on perçoit le vent? Eh bien, vous avez des insectes qui vont s'abattre contre une voile que l'on voit ici, et donc le vent, c'est un idéogramme là aussi qui comporte l'insecte, et cette rubrique de l'insecte en fait contient également par exemple les serpents. Donc on a des séparations qui sont différentes des nôtres, hein. Donc dans l'insecte, on a le serpent mais pas le lézard par exemple, et donc cette rubrique de l'insecte, elle sert à classer tout ce qui rentre dans, encore une fois, toutes les différentes formes d'animaux rampants, certains animaux rampants, des insectes, et puis aussi des actions, comme tout à l'heure au sujet, dans toutes ces rubriques, des actions, des verbes, des substantifs, etc. Donc la façon d'observer les animaux, de leur attribuer un rôle, se perçoit dans l'écriture, dans l'usage de tous les jours de l'écriture.
Tu peux réagir.
Oui, je rebondis juste rapidement. C'est très intéressant là, de ce dialogue aussi avec au-delà des époques. Vous voyez, on dialogue entre époques et entre ères culturelles. Alors déjà entre époques, évidemment, cette fonction satirique de l'animal dont tu as parlé, subversif dont tu as parlé, Pierre-Olivier, on va la retrouver dans la littérature du 20e, 21e siècle et bien avant, évidemment, au 19e. L'animal est éminemment politique, et je pense à Proust, hein, quand par exemple dans La recherche du temps perdu, il décrit une femme stupide qui va dans un jardin d'acclimatation. Et là, elle voit une sorte de zoo humain avec un cingalais qui est là. Et elle le traite de négro. Et le type lui répond, moi négro, mais toi chameau. D'accord. Et donc, voilà, retour à l'envoyeur, arroseurs arrosés. Il y a toute une dimension politique aussi qui est que on voit très bien comment Proust nous dit, attention, il y a un moment où ça va éclater. Il nous décrit l'aquarium du Grand Hôtel de Balbec avec Madame de La Rochefoucauld qui mange de la salade comme un grand poisson sous-marin avec des mâchoires énormes. Et il dit, tout le petit peuple qui est derrière l'aquarium, un jour, il va faire exploser la vitre. Hein. Et on va retrouver tout ce bestiaire satirique, évidemment, dans Le Temps retrouvé, quand par exemple son ennemi, l'ennemi du narrateur qui s'appelle d'Argencourt, est transformé en sublime gaga et en larve vibratile tellement il a vieilli. Et évidemment, tous ces animaux du bestiaire proustien, on va les retrouver quelques années plus tard chez Albert Cohen, dans Belle du Seigneur, dans Solal, dans toute la description de la Société des Nations, et je pense qu'on pourrait faire la même chose avec l'ONU. Et moi, ce qui me frappe aussi, et je vais arrêter là pour cette fois non pas dialoguer du Moyen-Âge à la contemporanéité, mais entre ères culturelles, c'est que les catégories... C'est très important de comprendre que nos façons de parler et notre langage construisent des catégories du vivant à l'intérieur de nos têtes, et on se rend pas compte qu'on les a, ces catégories, et c'est très bien de faire un détour par la Chine. Et si on regarde aussi dans la Bible hébraïque, par exemple, on se rend compte que au début, c'est dès la Genèse, on a une classification d'animaux à laquelle on est très avec laquelle on est très familier, hein. Les animaux des eaux, marins, on a les animaux terrestres, on a les animaux célestes, et puis on a un truc bizarre qui arrive, les Shretsim. D'accord, c'est une racine, hein, qui vient dire que ce sont les animaux qui ont le thorax collé au sol, hein, qui ne sont pas du tout forcément négatifs, même si le serpent, quand il va perdre ses pattes, va être inclus dedans. Et puis, cette racine, c'est exactement ce que disait aussi Yolaine tout à l'heure, à partir, voilà, il y a un dessin, et ça peut être positif et négatif, ben, cette racine, Shéretz, hein, va désigner parfois la vermine au sens très négatif du terme, et parfois au contraire la profusion, la multiplication des vivants. Voilà. Et donc vous voyez, là on a un début de catégorisation qui nous parlait, et puis d'un coup on a un mélange d'insectes, de coléoptères, de profusion, etc., qui vient semer le trouble dans nos classifications sur le vivant.
Peut-être on va prendre un temps d'échange avec vous si vous avez des questions. J'en ai peut-être une dernière avant cela que je pose à vous tous, qui n'est pas une question évidente peut-être, mais on disait au départ, voilà, qu'est-ce que les sciences humaines ont à dire ou peuvent dire avec leurs outils propres et leur méthodologie propre sur l'animal et peut-être sur le vivant, et peut-être plus spécifiquement sur la question de nos relations au vivant dans un contexte où on ne peut pas faire abstraction quand on parle d'animal et d'animalité, de la crise en fait, d'extinction, voilà, il y a un contexte politique qui vient demander des choses, voilà, à nos manières de parler justement de l'animal, d'enquêter sur lui et de faire de la recherche. Voilà, c'est peut-être une question où on reprend un peu de distance par rapport au texte, mais qui me semble importante.
Je peux réagir à ça dans le sens où je me dis, cette idée d'un renversement catastrophique des relations, pour le coup, on peut aussi l'interroger depuis le Moyen-Âge où il y avait cette idée que cette domination prémoderne du monde, comme ça, glorieuse de l'homme, en fait, elle était extrêmement fragile. Et que si les animaux se rendaient compte que les hommes étaient aussi tordus qu'ils le sont, en fait, il y avait cette angoisse qui est écrite très bien dans le roman de La Rose. Les animaux pourraient se révolter. Et en fait, cette domination qui tient à très peu de choses pourrait s'effondrer en un jour. Cette image montre ça. En fait, c'est une préfiguration de ça, du jour où, avant la chute de Rome, les animaux se sont alliés pour attaquer les humains, etc. Et donc, il y a ces textes où il y a une angoisse d'un dialogue interspécifique entre les animaux. C'est-à-dire, si les animaux commençaient à se parler entre eux et à se dire, à se révolter, disons, contre les humains, elle dit, mais évidemment, on perdrait tout de suite. C'est-à-dire, si les rats commençaient à venir nous manger pendant la nuit, si les oiseaux venaient nous crever les yeux pendant notre sieste, si tout le monde, tous les animaux s'y mettaient. Et en plus, les araignées pourraient tisser des pièges contre nous. Il y a un texte qui est assez délirant. Il dit, les marmottes pourraient faire des armures, je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, il y a toute une idée vraiment d'un monde animal qui s'associerait. Et là, évidemment, l'orgueil, disons, humain serait aboli en quelques temps. Et derrière ces textes-là, il y a quand même cette idée, disons, d'un rapport au monde qui doit être harmonieux. Pour eux, ça, c'était extrêmement important. Et qui doit être basé sur l'entretien des 1000 relations qui passent, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers l'homme. Et qui le relie, disons, avec les autres formes de vie, et de prendre soin de ces relations, c'est ce qui est au cœur vraiment du rapport au monde, enfin au Moyen Âge. Et là, c'est sans doute quelque chose sur lequel on est amené, si on est dans une critique nécessaire, disons, de la modernité, c'est de repenser la nature de ces liens. Et là, ici, tout l'héritage, disons, de l'Occident prémoderne, où ces relations dans les lieux où on vit ont existé de façon extrêmement forte, il faut les redécouvrir. Parce que c'était des modes qui ont été stabilisés avec l'environnement pendant des millénaires, qui ont été moins nocifs que les nôtres. Et là, on a, disons, un travail assez fort, à mon avis, de redécouverte, qui est à la fois historique, littéraire et aussi existentiel, pour repenser le présent.
Pour rebondir sur ce rapport à la nature, je voulais simplement dire que, par exemple,
Le sauvage, pour les Chinois, ce n'est pas du tout l'animal. Le sauvage, c'est le champ cultivé. C'est-à-dire, c'est le fait de trouer la nature, trouer les champs, enfin, faire quelque chose à la nature. Ça, c'est sauvage. Et pour revenir un petit peu à ce que vient de dire Pierre-Olivier, aujourd'hui, en Chine, il y a des zones protégées où la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale, est particulièrement bien préservée, c'est autour des temples taoïstes. Parce que les taoïstes n'ont pas le droit ni de tuer des animaux, ni de couper des arbres, sauf à certaines périodes très précises. Enfin, c'est extrêmement réglementé dans la religion taoïste. Et ces zones, ce n'est pas le cas autour des monastères bouddhiques, par exemple, mais ces zones sont devenues en Chine les seules zones où il y a une biodiversité absolument extraordinaire. Et c'est justement dans l'esprit taoïste qu'on ne va pas intervenir sur la nature pour faire des champs et jardins, donc être sauvage. Puisque la nature, au sens chinois du terme, c'est le wen, c'est-à-dire l'écriture, c'est-à-dire la trace animale. La trace, ça c'est l'origine de la civilisation chinoise, le wen, qui donne le mot de lettré, de littérature, et en fait... L'origine de ce mot, c'est la trace, qu'elle soit par exemple dans une pierre ou la trace animale. Donc on retombe sur nos papates.
Je crois que on va conclure. Mais avant de partir, on va vous montrer que le Moyen-Âge est bien présent aujourd'hui et que les chants d'oiseaux aussi sont présents.
En fait, au Moyen-Âge, on ne parle pas des animaux en général, comme on l'a dit, mais il y a des animaux qui ont un rôle d'intermédiaire entre le monde animal dans son ensemble et les humains, c'est les oiseaux. Les oiseaux qui, effectivement, chantent pour le monde animal et pour les humains, qui donnent à entendre la nature qui revit au printemps, etc. Et parmi les hommes, il y a des individus qui sont les poètes, qui, eux, sont capables de parler au monde naturel, de rentrer en harmonie, et qui sont capables de témoigner aux oiseaux, et donc par eux à l'ensemble du monde animal, de ce qui se passe chez les humains. Et donc le chant des oiseaux a eu un rôle extrêmement central, parce que tous les poèmes médiévaux commencent par une évocation du jardin, des oiseaux, etc., qui est une espèce de mise en ordre cosmologique. Et je voulais simplement partager avec vous, sans doute certains la connaissent, une pièce, disons, de Clément Jeannequin, qui est un compositeur du XVIe siècle, qui s'était inspiré beaucoup des bruits, des cris des marchands dans Paris, des bruits dans les batailles de son siècle. C'est une forme de poésie sonore. Et là, il nous invite à descendre dans le jardin et à écouter les oiseaux.
Réveillez-vous, cœurs endormis, cœurs endormis, cœurs endormis, cœurs endormis, cœurs endormis, ce premier jour de mai,
ce premier jour de mai,
ce premier jour de mai, pour vous mettre votre haut d'esprit, vous vous
Tu dis, 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 tu qui s'en sonnait de Paris.
Le petit mignon, sainte tête du petit,
sainte tête Dieu qui est là-bas passe vilain.
Il est temps,
s'en sonnait de Paris, c'est pour toi et bien la prime.
Il est temps,
il est temps que Dieu s'en sonnait de Paris.
Rire et gaudir, c'est mon devis.
Chacun s'y abandonne.
Rire et gaudir, c'est mon devis.
Signol du bois est joli,
signol du bois joli,
à qui de la voir
joli,
pour vous mettre hors d'ennui,
votre
gorge, chaque vous mettre hors d'ennui,
votre
gorge, chaque gorge,
Merci.